Donc, je suis doctorante au LASCO et à l'ICP. J'ai participé entre 2010 et 2012 pendant 3 ans à un projet. J'étais chargée de mission en indépendante, pas sous contrat. Donc ce projet, c'était entre la Cato et Veolia. Le but de ce projet-là, c'était de construire une méthode de concertation sur la qualité de vie en zone urbaine. Alors on disait qualité de vie pour les raisons qui viennent d'être évoquées, c'est qu'au bout d'un moment, on voulait plus parler de développement durable qui était une contrainte, on voulait parler d'apport de qualité. En fait, ce qui était derrière, c'était vraiment des pratiques de développement durable. Donc comment concerter soit la qualité de vie comme levier de développement durable. Donc ça, c'était un peu mon travail. On a testé cette méthode sur 2 territoires. À Luçon-Douel, ça concernait un plan local d'urbanisme, et à Cesson-Sévigné, à côté de Rennes, ça concernait une zone d'aménagement concerté. Ces deux projets d'urbanisme incluaient la construction d'écoquartiers, donc soit sous forme de ZAC, soit dans la place qui était attribuée à cet écoquartier dans le PLU. Donc ce projet est fini maintenant. Moi, en 2013, j'ai pu avoir une bourse de la Fondation Palladio qui me permet de rédiger une thèse, d'essayer de rédiger une thèse à partir de cette expérience. C'est très centré sur ce que j'ai vu pendant ce projet. Donc, pour parler un peu de ma perspective générale sur le plan théorique, ma notion un petit peu phare, c'est cette question d'aspiration. C'est surtout parce que j'ai lu un vieil ouvrage, pour le coup, de Pierre-Alexandre Bardelot, qui s'appelle « Sociologie des aspirations », et qui est vraiment entré en résonance avec ce que j'avais aujourd'hui, plusieurs dizaines d'années après, devant moi et dans cette expérience de travail. Donc lui définit les aspirations comme un processus psychosociologique, donc entre l'individu et la société, par lequel le sujet, qui peut être un individu ou un groupe, est attiré ou poussé vers un objet proche ou lointain, à travers des images, des représentations, des symboles. Et donc cette aspiration contribue à définir, à orienter ses projets. Donc l'objet en question peut être matériel, hein, ça peut être une aspiration à obtenir quelque chose, mais ça peut être aussi une aspiration à des idéaux plus lointains. Donc il y a toujours un aspect personnel et social, même si de par mon laboratoire d'appartenance et le cadre universitaire, j'ai toujours poussé vers le côté social. Donc ces aspirations, elles correspondent à des désirs, espoirs, expériences qui sont toujours tirés vers un but, une finalité. Et en fait, c'est l'étude de cette ligne de mire, de cette finalité, qui va devenir un peu centrale pour moi dans la sociologie des aspirations. Il y a eu une définition un peu plus approfondie de cette notion de finalité dans des ouvrages après collectifs qui ont été faits sous la direction de Paul-Henri Chambardelot, et qui me sont amenés à définir un peu une aspiration-finalité, une espèce de conception idéologique et un ensemble de valeurs articulées qui devient un petit peu cette ligne de mire. Et là, évidemment, pour moi, dans mon étude de cas, c'est le développement durable. Donc, je propose donc d'étudier le développement durable comme une finalité par rapport à ses aspirations, dans le sens qui est donné ici. Pour moi, ça permet de consécuter un peu ce que j'appelle ça une idéologie, ou enfin voilà, de rentrer vraiment dans le sens politique où j'ai aucune compétence. Donc, ma recherche va porter sur la relation entre les aspirations des habitants et l'usage des territoires que j'ai pu observer, et cette aspiration-finalité qu'est le développement durable. On se situe ainsi un peu dans deux registres, la prise en compte de la parole dans des dynamiques bottom-up, comme on l'a aussi évoqué, et la question de la vision du futur, des projections, et en partie, du coup, de la prospective. Donc il me semble que dans ce qu'introduit Paul-Henri Chambardelot, un peu avec ces deux éléments, en même temps prospective et approche bottom-up, il y a une continuité entre ces écrits un peu anciens et ce qu'on appelle aujourd'hui la prospective participative, les initiatives qui vont dans ce sens-là. Donc, pour approfondir un petit peu plus sur cette question de prospective participative, c'est des démarches donc de participative. Quand je suis citoyenne, mais il n'y a pas toujours que des citoyens français dedans, qui portent sur un idéal de bien-être, la qualité de vie pour vous, votre cadre de vie, votre vie de demain. Donc c'est des questionnements qui sont très présents dans les initiatives de participation liées au développement durable. C'est une évidence pour certains acteurs du milieu d'ailleurs qui ont un peu compilé ces différentes initiatives et qui disent qu'il y a une vraie continuité entre le fait de proposer du développement durable et une réflexion à long terme sur quelle ville de demain, quel type de développement poursuivre. Alors, La mobilisation de ce type de questions, un peu de prospective participative, elle ne se fait pas uniquement pour demander le sens que les gens vont avoir, vont investir dans l'avenir, quelle projection ils ont. Ça se fait simultanément avec une prise en compte de l'expertise citoyenne. C'est souvent complètement lié et on n'arrive pas à dissocier. Et on a l'impression parfois que la prise en compte de leurs aspirations est conditionnée au fait qu'ils aient un effort d'analyse sur leur vécu et un peu mobilisent cette expertise citoyenne. Mais dans le terme même de prospective, on a toujours ces deux aspects. En général, ceux qui ont la prospective, ils doivent mobiliser leur analyse du présent et se projeter, quoi. Donc bon, la prospective participative, pour moi, elle se définit un petit peu en associant ces deux aspects. Donc, ce qu'on peut nous objecter en regroupant un petit peu sous ce terme-là des initiatives très différentes par rapport à la prospective participative, c'est que les formulations des questions d'un territoire à l'autre et l'empoisonnement des initiatives qui viennent d'être évoquées, la formulation des questions est très très différente. Elle évolue et souvent elle se décide d'ailleurs, pour l'avoir vécu, à l'occasion d'un comité de pilotage et de l'avis de 10 personnes qui disent ça me parle plus comme question que celle-là. Donc on pourrait dire que ça ne permet pas de mobiliser un corpus commun pour une étude scientifique. Moi, de mon expérience dans les ateliers qui ont été organisés et aussi à la lecture d'un rapport de l'Observatoire national des agents d'intérêt locaux et pratiques territoriales de Pointe-aux-Rac, c'est un nom, je conclue plutôt qu'il y a une continuité entre ces différents questionnements et que souvent pour les personnes qu'on a en face qui participent à l'atelier, une question va rentrer plus en résonance qu'une autre, mais le type de propos fourni est le même. Donc, par exemple, l'Observatoire nous dit dans une petite rubrique « Trucs et astuces pour mettre en place des démarches participatives et des prospectives participatives », il nous dit « La façon de poser la question est alors en fonction du public auquel on s'adresse, non seulement la façon dont on pose cette question, et non seulement primordiale, mais également de l'ordre du respect ». Il est préférable d'user de termes simples plutôt que d'un jargon technique et scientifique, du genre « c'est où le bonheur ?» c'est la question qui a été utilisée pour l'enquête pleine commune en 2010, plutôt que « quelle est votre vision à 2015 au territoire ?» question plus complexe et mal appréhendable. On voit dans la façon dont ils passent d'une question à une autre, en fait, eux, leur expertise conclut à une différence de formulation, mais pas une différence sur le type de propos suscité. Donc la solution pour ça, en fait, ça a été de juste ouvrir les thématiques de départ en proposant, en mettant sur un tableau d'abord qualité de vie, vivre ensemble, qu'est-ce que vous nous donniez comme terme, ça peut être bien-être et tout, et de laisser à chaque fois ouvert, il y a parfois un terme qui prend plus d'emprise que d'autres et qui fait plus de sens en fonction du vécu de chacun, mais globalement, le type de parole et donc la parole sur les aspirations mobilisées est grosso modo la même. Enfin, c'est ce qu'on a observé sur du coup une dizaine d'ateliers différents, quoi. Donc moi, cette continuité de questionnement qui serait recouverte par la prospective participative, je la mets un petit peu en tension entre des questions plus concernant l'individu jusqu'à des questions qui concernent plus la ville. Proprement sur l'individu, on va avoir des démarches comme le Conseil de l'Europe qui a développé une méthode vraiment sur le bien-être. Donc, c'est quoi le bien-être pour vous? Quels sont les critères pour le bien-être? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que ce bien-être évolue? Donc, avec des démarches très individuelles qui du coup, dans le type de propos qui est suscité, on a des dimensions très endogènes centrées sur le sujet. Donc, bien-être, mal-être, les équilibres personnels, des dimensions plus psychologiques. Enfin, c'est un peu la spécificité de ces démarches centrées sur l'individu. Et puis, on va jusqu'à des démarches vraiment centrées sur la ville, sur penser PESAC à 2015, penser Los Angeles en 2020, qui sont vraiment plus centrées sur la ville, où là, on va voir disparaître les dimensions endogènes propres au sujet et qui vont être de plus en plus centrées sur des dimensions sociales, donc les équilibres sociétaux, le vivre ensemble, les relations humaines, et des dimensions matérielles, plus ce qui concerne les espaces de vie, le cadre de vie et les moyens de vie. Donc, moi, le projet auquel j'ai participé, même si c'est beaucoup inspiré la méthodologie du Conseil de l'Europe dans les étapes, dans la réflexion méthodologique, nous, on a transformé notre question pour qu'elle aille plus vers la ville. Donc, on n'a pas, moi, j'ai pas de matière sur la dimension endogène, et j'ai vraiment des propos plus à la fois sur les espaces de vie et sur les questions de lien social. Donc le saut de questions qui se fait alors entre le Conseil de l'Europe et le projet auquel j'ai participé, c'est on passe de qu'est-ce que le bien-être pour vous à qu'est-ce que la qualité de vie pour vous. Et là, on joue un petit peu c'est toujours des aspirations qui ressortent, mais pas portant sur la même focale. Donc je vous propose d'aller un peu plus loin sur la trame de questionnement d'une telle concertation, comment on procède et puis qui on questionne. Donc nous, ça a très inspiré par le Conseil de l'Europe, on a procédé en deux phases discontinues. La première phase, c'est une phase dite des groupes homogènes, qui se fait sur une ou deux séances. Alors nous, on a acté qu'on voulait de la significativité et pas de la représentativité. C'est un peu... Enfin, je trouve ça très jargonnant, mais c'est juste pour dire que on n'a pas les compétences pour faire de la statistique. On va essayer de voir quelles sont les tensions du territoire et d'avoir un propos qui mette en relief ces tensions-là. Donc quelque chose peut être totalement marginal, on lui accorde la même importance que la majorité. D'où des critères de choix pour ces groupes homogènes qui sont assez particuliers. Donc à chaque fois, nous, les critères pour constituer les groupes homogènes ont été en fonction des enjeux du territoire. Il y a un effort de territorialisation, comme c'est souvent le cas en développement durable. Et aussi les priorités, les questionnements du politique à ce moment-là. C'est des critères qui ne sont pas forcément homogènes sur l'ensemble des groupes qu'on va constituer. Par exemple, on peut avoir des groupes géographiques et puis décider de faire en plus un focus sur la jeunesse parce que c'est une question prégnante à ce moment-là. Ils ne sont pas non plus exhaustifs, c'est pas parce qu'on fait un atelier jeune qu'on va forcément faire un atelier ancien. S'il n'y a pas de pertinence à faire un atelier ancien, on pense que ce n'est pas forcément la peine de le faire. Et la première contrainte qui est très pragmatique quand on va faire des ateliers, c'est que le premier critère pour pouvoir constituer un groupe homogène, c'est d'avoir accès à une liste de personnes pour pouvoir les inviter. Nous, en plus, on voulait faire un tirage au sort pour mobiliser des gens qui n'étaient pas forcément inclus dans les démarches de participation. Donc il fallait à chaque fois qu'on pense un critère, penser à une liste. Donc, critère géographique, on a les listes électorales. Avec la bonne volonté politique, on arrive à avoir accès. La partition par âge, avec la fréquentation d'un lieu par les jeunes et par les anciens. Donc, il faut à chaque fois qu'on pense à avoir une liste. Donc, nous, au global, ça s'est souvent fait sur des critères territoriaux, finalement. Parce que quand on commence à étudier un territoire, enfin, un diagnostic territorial, c'est toujours les fractures du territoire, les tensions du territoire, les différents quartiers. Et ça reste hyper prégnant. Donc, on a souvent fait des ateliers centre, quartier, machin. Et en plus, un focus groupe, par exemple, sur les salariés des entreprises ou alors sur les jeunes. Donc, une fois qu'on a réalisé ces ateliers dits homogènes, on réunit tout le monde dans un atelier arc-en-ciel ou hétérogène. Donc là, on en fait un seul. Pour nous, c'était l'atelier final. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a que le politique n'arrive que à cette étape-là. Ce qui, pour moi, aussi conditionne de se revendiquer d'une prise en compte des aspirations, c'est d'essayer de ne pas tendre vers la demande politique classique, d'essayer d'inventer vraiment. Donc, le groupe élu arrive dans l'atelier final, il se constitue en groupe à part entière. On essaie de positionner un petit peu les gens en fonction de la responsabilité, en fonction des interactions qu'ils ont, mais pas en fonction d'une demande, d'une liste de courses, quoi. Donc la trame de questionnement va aussi dans ce sens-là, de privilégiant la prise en compte des aspirations. Donc le cheminement, c'est du rêve à l'action. Ça, c'est une différence par rapport aux démarches de concertation plus classiques qui concernent souvent des questions d'aménagement, où on commence la réunion bien posée avec un élu ou un technicien qui nous expose que le projet pour la ville, c'est ça, et qu'après, la prise de parole est conditionnée à ça. Nous, on a retourné le truc, et ce qui est fait dans ces démarches de prospective participative, c'est de commencer par un rêve pour la ville, et puis après des thématiques générales, qu'est-ce que la qualité de vie pour vous. Et au fur et à mesure de l'avancement des ateliers, on ressent vers des critères, on finit par des propositions d'action. Bon, il faut savoir que ces ateliers-là sont calibrés pour 10 à 20 personnes, on est dans du très qualitatif, ça dure 7 heures, donc si on veut que tout le monde parle, c'est impossible de faire plus, donc on n'est vraiment pas dans du représentatif, on est dans l'expérimentation, quoi. On avait en plus recours à un animateur, ce qui est... Si faire parler correctement les gens, nous, les chercheurs, nous, si on n'est pas formé à ça, c'est quasiment impossible d'avoir cette capacité à solliciter la parole, enfin, justement, à... Et la qualité de ce qui est produit et justement des aspirations recueillies dépend beaucoup de ça. Faut que j'avance encore plus. Donc, la question ici, une fois qu'on a un petit peu un cadre méthodologique, c'est qui questionner, par exemple, quand on construit un écoquartier qui n'est pas là, où il n'y a pas de gens, donc on est totalement sur l'imaginaire. Donc, on a répondu à ces questions-là par trois biais. Alors, c'est des petites contributions parce que, de toute façon, personne s'en sort pour en avoir parlé. Donc, les biais, c'est questionner des futurs habitants, entre guillemets. Qui pourraient être ces futurs habitants? Nous, la réflexion qu'on s'est faite, c'est que sur les deux territoires interrogés, les gens qui travaillent sur ces territoires n'y vivaient pas. Donc, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est que ces gens-là qui travaillent sur le territoire, qui connaissent déjà, pourraient avoir envie d'habiter à côté de leur travail pour des questions écologiques et d'amélioration de la qualité de vie. Donc, on a fait des ateliers dans des entreprises présentes sur le territoire, c'est ce qu'on pourrait dire des futurs habitants potentiels. Il y a les habitants qui sont déjà présents. Donc, ça, c'est principalement des habitants du milieu rural. Souvent, les quartiers qui sont construits viennent englober des hameaux ou englober des parcelles parcelles agricoles qui existent déjà, et du coup ces gens-là ils sont déjà présents dans le territoire et ils vont faire partir de ce projet-là de toute manière. Donc eux, ils sont déjà des habitants de ces futurs quartiers. Et troisième biais pour pouvoir répondre à quel projet dans la construction d'écoquartier, c'est les voisins directs. Et ça c'est valorisé même par la connaissance du label écoquartier et ce genre de choses, c'est qu'il ne peut pas avoir un développement d'un quartier si y a un autre quartier qui touche vraiment, ça fait partie d'une même dynamique et donc les voisins directs sont déjà à prendre en compte dans une concertation sur un écoquartier. C'est d'autant plus vrai, par exemple, dans une ville comme Los Angeles, quand on a étudié le quartier ouest, la municipalité avait en plus l'intention que certaines personnes de ce quartier-là puissent intégrer le nouveau quartier en construction. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent ces gens-là? C'est forcément partiel et très petit, mais je vous propose de survoler un petit peu les trois groupes correspondant aux trois cas que je viens d'évoquer, de quoi ils nous ont parlé. Donc, le cas des futurs habitants, les entreprises, c'est une concertation prospective très difficile à faire parce que ça dépend beaucoup du contexte de l'entreprise à ce moment-là et de la façon dont elle prend la parole. Ce qui est totalement prégnant, c'est la question des transports, ça c'est les omnibus, je ne sais plus comment on dit, bon, ça prend beaucoup de place. Et le côté stress, gêne, voilà. Alors ça, c'est d'autant plus prégnant, par exemple, à Session Sérignée, que les gens qu'on a interrogés sont sur une ZAC qui fera partie du projet global et de l'écoquartier, de Via Silva, avec rien et tout, et qu'eux, ils sont déjà présents sur le territoire alors que les infrastructures qu'on promet en termes de développement durable ne sont pas encore arrivées. Donc ils se retrouvent avec un nombre de parkings limité, il n'y a qu'une place pour trois personnes, par exemple, mais il n'y a pas encore, les routes ne sont pas encore finies, les transports en commun ne sont pas arrivés, le métro n'est pas arrivé, et eux, pendant 5 ans, ils vont devoir se dépatouiller avec ça. Alors, de l'avis de ces travailleurs, c'est qu'eux, ils développent des comportements d'évitement, de je me gare comme ça, je m'arrange, et que ça, ils vont avoir du mal à remettre en question une fois qu'il y aura des infrastructures pensées de manière strictement développement qui vont arriver, ils auront déjà leurs habitudes. Donc en plus, on remarque que chez ces travailleurs qui sont souvent du coup les entreprises, là c'est des entreprises de services, c'est des cadres, c'est des gens qui font partie plutôt des CSP+, il y a toujours un fort intérêt pour la nature, des marchés écolos en général, on ressort le manuel en entier, donc ça on l'observe. Par contre, il y a une réticence à habiter directement à côté de son lieu de travail, par exemple. Ça, c'est plutôt contredit. Ils veulent être proches, mais ils ne veulent pas non plus croiser leurs collègues de boulot en allant acheter le pain, quoi. Donc, c'est des notions intéressantes. Sur les habitants déjà présents. Donc là, ce qui est l'atelier le plus intéressant sur cette question, c'était l'atelier rural à Session Sévigné. Ce qui émerge en termes de rêve, par exemple, c'est convivialité, bien vivre ensemble, qualité de vie, calme, sérénité, la ville verte sans nuisance, la ville à taille humaine. Donc c'est vraiment l'image de la ville à la campagne qui avait été pointée comme une contradiction du développement durable par Sarah Mellenhoff. C'est vraiment cette image, la ville verte, calme, tranquille, où les gens se connaissent. Donc voilà, de manière plus précise, donc on demande à constituer des domaines et puis des critères à l'intérieur de ces domaines, donc, et on les classifie avec un petit système de domaines, comme c'est fait comme dans beaucoup de concertations. Donc le domaine pour eux qui arrive en premier face dans la perspective de cette construction future d'un écoquartier, c'est la densité de construction. Donc là, ils nous mettent dans les critères éviter l'habitat trop dense, trop haut, les parts d'immeubles, les dortoirs, privilégier la maison individuelle, l'habitat pavillonnaire, le parking, les espaces verts, voilà. Ça, c'est net. Ce qui arrive en seconde position de domaine, c'est mutation lente et respectueuse. Donc, c'est un peu la notion d'apprentissage, de lenteur, de ne pas être trop brusqué non plus dans leur changement de cadre de vie, qui est très important. Ils utilisent une une image que j'aime bien, ils s'appellent les Indiens. C'est des indigènes, les gens qui habitent déjà sur ce territoire et qui vont se faire un petit peu recouvrir par les co-quartiers. Donc voilà, c'est un petit peu, ils demandent qu'on se d'abord une première tranche, qu'on apprenne sur les points positifs et négatifs, qu'on construise par étapes et que du respect de l'alerte. Et puis le troisième domaine, c'est sur les espaces partagés. Il y a une demande, ça on l'a ressenti sur les deux territoires, de garder des espaces vides. C'est une peur souvent qui arrive, enfin une peur, une demande réelle, teintée de crainte, sur laisser de la place à l'imagination, laisser de la place à l'appropriation, laisser des espaces vides. Donc voilà, et pour le troisième groupe, les habitants des riverains, donc là surtout mon exemple c'est le quartier West Alosogol, qui est un quartier assez spécifique à Los parce qu'il est isolé du centre, il a aussi des caractéristiques socio-économiques qui sont assez différentes du reste de la ville, mais cet isolement va prendre une couleur totalement différente quand l'écoquartier va être construit, parce qu'il va être construit sur la continuité entre le centre et ce quartier. Donc là, à nouveau, ce qu'on voit apparaître, un encablement dans les rêves, c'est le vivre ensemble, la vie sans bruit, les oiseaux, les champs, les fleurs, voilà, un encablement. Les deux territoires sont semi-ruraux, hein, donc voilà. Et dans les domaines proposés, alors ce qu'on voit apparaître en premier, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y avait moins les images un petit peu, enfin les termes un peu clés du développement durable qui ressortaient tels quels, c'était beaucoup plus implicite. Le premier domaine qui arrive, c'est la sécurité. Alors, nous, c'est la sécurité, enfin, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc, dans les critères, ils mettent à la fois la présence de la police, la sécurité au sens classique, et puis toute la question de la sécurité routière. C'est assez intéressant. Donc, de par l'isolement, les fractures des territoires, les routes, pour eux, la notion de sécurité et d'appropriation de l'espace, c'est d'abord de pouvoir le traverser par différents modes, de pouvoir traverser à pied leur ville, ce qui n'est pas possible vraiment aujourd'hui, de pouvoir se balader le week-end. Donc, des questions qui ont plus, où on pourrait se dire, la solution des points durables, c'est un chemin pédestre, c'est très aidé. Là, pour eux, ils le mobilisent en termes de sécurité juste sur un endroit où ils vivent. Donc, ce qui vient ensuite comme domaine, c'est la relation et le respect, tout ce qui est les règles de savoir-vivre, la tolérance, éviter le racisme, ça c'est très très important, on voit qu'il y a des tensions générationnelles très importantes aussi. En troisième, c'est les commerces et les services, il y a une grosse demande de proximité. Et puis, en quatrième position, et sous forme plutôt de crainte de rejet, arrive l'urbanisme, le logement. Donc là, par exemple, on peut voir apparaître on ne veut pas d'éolien parce que c'est pas beau, parce que ça fait du bruit, la dégradation des bâtiments publics ou le soin porté aussi à l'habitat. C'est un quartier qui est déjà assez stigmatisé et ce qui les choque toujours, c'est quand une maison est là-dedans. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose de très dévalorisant. Donc, je saute les propositions. Et juste ce qui est important pour moi à partir de toutes ces aspirations qui sont exprimées, c'est de pouvoir les mettre en résonance avec l'aspiration finalité du développement durable. Alors, ce que j'ai envie de faire, enfin je ne sais pas à quel point ça sera abouti à la fin de la thèse, mais c'est de raisonner en termes de levier d'adéquation ou levier de rejet, un petit peu comme on fait avec une idéologie, mais de façon moins formelle. Donc là, on voit que les leviers d'adéquation, ce qui est particulièrement plébiscité partout, c'est la notion des espaces verts, donc toujours en pensant au paradoxe de la ville à la campagne, et le commerce, le service de proximité. C'est les deux choses, c'est un fort levier d'adéquation. J'y ajouterai même le discours sur la résilience territoriale. Le fait qu'on a des problèmes, mais le développement durable va nous offrir une voie pour résoudre les problèmes du territoire. C'est un peu les trois leviers qu'on voit de façon récurrente entre ces aspirations habitantes et développement durable. Les leviers plus de rejet, ça va être évidemment la densification qui est toujours mal digérée sur ces territoires-là, qui sont des territoires semi-urbains où la densité n'existe quasiment pas aujourd'hui. Et la réduction de la place d'automobile, pas tellement de manière directe en interdisant de prendre une voiture, plus en nous disant on n'a plus de place où se garer. Donc ça, c'est vraiment très fort. Alors ce qui est intéressant, une fois qu'on a des leviers d'adéquation et de rejet, c'est de montrer les paradoxes ou dans ces représentations-là. Le premier des paradoxes ici, c'est évidemment la demande de proximité sans densité. c'est quelque chose, on a du mal à voir comment ça peut avoir une réalisation concrète, de demande forte de quartiers isolés, de proximité de commerce, de proximité même des services municipaux, d'avoir des annexes, voilà, et en même temps, une demande de la maison individuelle, des espaces verts et tout. Donc, on voit, surtout dans le contexte budgétaire aujourd'hui des municipalités, que proximité sans densité, c'est un peu compliqué. Ça, c'est un peu les mécanismes que j'essaye de mettre en place. Je conclurai juste sur cette image qui me paraît aussi assez intéressante du regard des Indiens. C'est venu de façon anecdotique dans un atelier, mais je trouve ça assez parlant comme image. Et une problématique assez particulière sur les deux territoires qui font aussi que c'est une analyse un peu ethnographique, c'est tout petit, mais de territoires semi-ruraux qui vont devenir des territoires complètement urbains par ce développement des écoquartiers, par le fait qu'ils sont proches de Saint-Gaul et proches de Lens, c'est sur ces lignes proches de Rennes, et qui vont être un petit peu englobés dans une continuité métropolitaine via la construction des écoquartiers. Et il me semble que c'est peut-être une piste de réflexion assez large qu'on peut retrouver sur pas mal de territoires aujourd'hui dans les projets urbains. Je pense notamment au développement du plateau de Saclay qui se fait en ce moment et dont on n'a pas fini de parler avec le Grand Paris, où c'est un territoire majoritairement rural qui est en train d'être complètement transformé en territoire urbain et on commence à parler d'écoquartier, de développement de ce type-là. Donc, qu'est-ce que ça modifie pour les gens et qu'est-ce que ça joue en termes d'aspiration dans la représentation ? Voilà, merci bien.
J'espère que ça va aller vite.